Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux. Merci de nous écouter aussi en podcast. Nous battons des records mois après mois. On est très heureux d'être avec vous. Si vous avez raté les deux premières heures d'émission, déjà vous avez raté énormément de choses. Je vous conseille vivement d'aller écouter tout ça cet après-midi en podcast. On a parlé durant une heure de l'Olympique de Marseille, des propos terribles de Pablo Longoria qui parle de corruption dans le championnat de France. Nous étions avec le porte-parole du syndicat des arbitres qui était extrêmement en colère, évidemment. Et puis à 10h, on parlait aussi de ce match entre l'Italie et la France. Est-ce qu'il faut juste une victoire ou un carton, ou encore de la guerre entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor? Dans quelques instants, nous parlerons des choix de Galtier avant ce match face à l'Italie. Depuis quelques semaines, le sélectionneur a changé de doctrine. Les cadres ne sont plus à l'abri. La gestion justement de ces cadres peut-elle devenir un problème? 11h30, les GG remontent le temps. 19 février 2020, il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, ce match de Ligue des Champions entre l'Atalanta de Bergame et Valence. Ce match détonateur du Covid, Christophe Cessieux nous en parlera. Et puis 11h45, on reviendra. Il y a beaucoup de supporters marseillais qui nous ont appelés ce matin et qui veulent réagir aux propos de leur président. Et évidemment, l'invitation depuis 9h du matin tient toujours pour Pablo Longoria, pour Fabrizio Ravanelli, s'ils veulent intervenir dans cette émission.
Compte là-dessus, oui.
Bah oui, il faut toujours compter là-dessus.
L'invitation.
Et je vous donnerai d'ailleurs des éléments, hein, parce que la com de l'Olympique de Marseille nous a répondu. Nous sommes toujours en attente, donc je vous dirai tout ça à partir de 11h40. André Siegfried a dit un jour, le talent a besoin de gestion.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
On en reparlera, mais mon souhait, c'est qu'il y ait une émulation très très forte. Et plus on aura une émulation très très forte, plus l'équipe de France sera très très forte.
Mais avant tout, clarifions les choses. Qu'est-ce qu'un bon manager?
En fait, on est très très concentré sur l'immédiateté, c'est-à-dire chaque journée de préparation.
Un bon manager, c'est quelqu'un qui obtient deux choses: des résultats et de la rétention.
À un moment donné, les Saint Gregor, on est des Gaulois.
Tu as rien compris.
Obtenir des résultats grâce à votre équipe, sans perdre vos collaborateurs en cours de route.
Nous, on est tellement heureux de jouer. Il est de jouer, de vivre l'instant présent avec plaisir et de s'aimer très fort.
Comment les bons managers obtiennent-ils cela?
C'est être là, ensemble, faire corps.
J'avais pas compris, t'avais compris toi?
C'est ça le sens surtout, c'est ça le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait. Ce soir, on a trouvé le sens.
Si on simplifie le plus possible les réponses, voilà ce qu'on obtient.
L'idée, c'est de continuer à garder le potentiel de cette équipe, faire mûrir ses joueurs.
Et vous n'avez pas besoin de plus d'outils pour être un bon manager.
Il y mettait du temps, du talent et du cœur. S'il passait sa vie au milieu de nos heures.
On peut passer quelques disques de temps en temps. Ça fait du bien, je trouve.
Ah bah oui,
ça repose la tête.
Bien, ouais.
Allez, on reste un petit peu. Dans les grandes
gueules, ça sème maintenant, hein. Tu sais, t'es au courant. Hein. Dès que tu mets un extrait, boum,
attends, regarde ce que j'ai dans les poches.
Ce qui fait du bien, c'est le Baulois, parce que, a priori, t'as
regardé. Ah, le Baulois, ça t'a requinqué. Hein.
Faut dire que le Baulois, il te requinque. Hein. Je peux dire que t'es bien. Hein. T'es, pendant trois jours, t'es tranquille.
Super, hein. C'est très, très beau.
On dit souvent, c'est un pavé dans la mare. Là, il n'est pas allé dans la mare. Vache.
Tu sens qu'il est là.
Je suis sûr que je vais devoir faire un peu de sport.
Si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt, mon coach de basket avait raison. Allez, Damien Penaud, Gaël Ficou, Charles Olivon. Depuis quelques mois, Fabien Galtier n'hésite plus à sanctionner certains cadres du 15 de France. L'ailier de l'UBB en a donc fait les frais après son match raté à Twickenham il y a deux semaines. Le sélectionneur des Bleus a donc fait des choix forts, assumés pour ce troisième match cet après-midi du tournoi destination face à l'Italie. La musique qui fout les jetons et cette question. La gestion des cadres peut-elle devenir un problème? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Jérôme Pinault.
Oui aussi.
Sarah Pitkowski.
Ben non.
Mais tu as le droit, ma chère Sarah.
Oui.
Pascal Duprat.
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC.
Pascal, c'est pas possible.
Oui,
ouais, c'est un truc. Non, c'est
fou,
hein.
En direct de Rome, Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Allez, c'est vrai, je le disais il y a quelques instants, Fabien Galtier a décidé et a totalement changé de doctrine.
Oui, bah on en parlait hier, hein, il a décidé de modifier son management, de ne pas hésiter à sortir des cadres, et c'est nouveau, car il y a un an, ironie de l'histoire, c'était avant d'affronter l'Italie à Lille, quand on lui faisait remarquer que certains n'étaient pas trop soumis à la concurrence, voici ce qu'il nous répondait, et en parlant d'ironie, écoutez.
On entend bien ce qui se dit et la lecture que certains ont sur le traitement de la performance de nos joueurs. Et parfois, et ça c'est très bien, les commentaires disant qu'il faudrait changer, modifier l'équipe. Mais le rugby, c'est pas la Star Academy, c'est pas Koh-Lanta non plus. L'équipe de France de rugby, c'est pas ça. Les joueurs qui sont là, pour certains, ils ont 80 sélections, 60 sélections, 50 sélections. Ils sont pas là par hasard. Et parfois, on a le droit d'être un peu moins performant collectivement. Okay. On a le droit aussi d'être un peu moins fort individuellement. Mais en fait, c'est simplement des êtres humains, et dans la valeur de notre équipe et dans la construction de notre équipe, la résilience, elle se fait collectivement.
C'est terrible, avec un handicap. C'est terrible ces propos.
Oui. Mais un an après, plus de Koh-Lanta, vous l'avez bien vu, hein, l'île de la tentation a rattrapé Fabien Galthié, et il s'est décidé avec son staff à éventuellement déboulonner les statues. Des hommes comme Ficou, tu l'as dit, JC, Aldrit, Olivon sont passés sur le banc ou les tribunes en novembre. Là, c'est au tour de Penaud qui sera titulaire. Mais avec l'UBB ce soir face à Clermont en top 14 et non pas avec les Bleus. Et un an après, Fabien Galthié parle des autres joueurs, les 14 qui quittent Marcoussis le mercredi soir avant le match du week-end.
Ce que l'on veut aussi, c'est que lorsque je donne l'équipe, la sélection le mercredi à Marcoussis, devant les 42 joueurs, que les joueurs qui sont parmi les 14 se disent « je vais avoir ma chance ». Si je continue à travailler, si je continue à m'engager, je vais me développer et je vais avoir ma chance. Tout compte dans notre sélection et donc tout est possible.
Tout est possible, plus de confort, mais si ça ne marche pas, attention aux liens abîmés avec les cadres tout de même. Pour autant, le capitaine Antoine Dupont, pragmatique, ne voit lui que le résultat, au sens propre comme au sens figuré.
On a déjà connu cette rotation sur la période de novembre où on a vu des joueurs qui peuvent être catégorisés habituellement titulaires qui ont été remplaçants ou hors groupe, et les joueurs qui ont joué à leur place ont été au niveau, ce qui nous a permis de gagner les matchs, de rajouter de l'émulation dans ce groupe. Aujourd'hui, c'est la performance du terrain qui parle, on en est tous conscients, et on garde surtout en ligne de mire notre ambition collective, les résultats collectifs qui restent l'essentiel, où chacun essaye individuellement de donner le meilleur de soi-même dans un cadre collectif, donc je pense que ça nous pousse tous vers le haut niveau et vers la performance, en tout cas c'est ce qu'on recherche.
La performance qui devra être au rendez-vous en Italie aujourd'hui, mais aussi en Irlande et face à l'Écosse, sous peine de nouvelles interrogations où il ne faudrait pas non plus finir sur question pour un champion.
Exactement, merci pour cette analogie sur les émissions de télé, et c'est vrai que c'est Fabien Galthié qui a commencé, la gestion des cadres peut-être devenir un problème. Tu restes avec nous Wilfried Templier, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, je te voyais réagir, souffler.
À l'écoute du sujet de Wilfried, il y a deux trucs qui me choquent quelque part. D'abord, la position d'Antoine Dupont, c'est vraiment la voix de son match, c'est la voix du sélectionneur. Et j'aimerais bien le voir, lui, dans la situation où Galthié le mettrait sur le banc. Je pense qu'il est, pour l'instant, lui, il a le totem d'immunité totale.
Comme Galthié.
Et même s'il n'a pas réalisé des performances exceptionnelles avec les Bleus depuis son retour. Mais c'est Saint Dupont, c'est Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur du monde. Donc lui, il est en dehors de tout ça. Tout comme Ramos, la semaine dernière, Thomas Ramos n'a pas été exceptionnel. Il aurait pu, comme Damien Penaud, se voir peut-être indiquer le chemin du banc, ne serait-ce qu'un match. Mais on ne touche pas à Ramos, et au contraire, il a même été, en quelque sorte, rehaussé.
Promu,
puisqu'il est de nouveau demi d'ouverture. Donc il y a quand même les intouchables.
C'est pas aux Toulousains.
Et je sais pas si c'est les Toulousains, mais t'as les intouchables et t'as les autres. Et quand il disait les 14 qui sont là, il y en a combien? Non, c'est les 14 qui s'en vont.
Les 14 qui s'en vont.
Franchement, est-ce qu'il a regardé Jalibert dans les yeux quand il lui a dit ça?
Ça t'en sais rien. Ils disent qu'ils se sont vus pendant près de 2 heures.
Tu crois qu'aujourd'hui, il se dit, moi, j'ai encore ma chance
de revenir en équipe de France?
Quand tu te fais, tu prends des coups.
Jalibert n'est pas un cadre, Christophe.
Non, il n'est pas un cadre.
Enfin,
la semaine dernière, Galthié disait qu'il était quand même indispensable à l'équipe de France. Il le met en tant que demi d'ouverture. Et puis, pendant le match, alors alors qu'il n'est pas plus mauvais que les autres, eh ben il dégage comme un malpropre, et le changement de physionomie et le changement de schéma de jeu fait que c'est pas mieux et que tu finis par perdre le match. Non, moi je trouve que la gestion humaine elle est pas exceptionnelle. Je préférais quand c'était la Starac et que tout le monde gagnait finalement, parce qu'aujourd'hui risques de te couper de tes mecs, notamment d'un garçon comme Damien Penaud, qui est quand même un garçon qui a fait gagner l'équipe de France pendant des années, serial marqueur, garçon fantastique, joueur extraordinaire, peut-être un peu en dedans effectivement au niveau défensif la semaine dernière, mais qui ne l'aurait pas été. Il revenait en équipe de France après une longue absence, et là pam, coup de martinet, t'as raté deux plaquages, tu dégages et tu reviendras si t'es meilleur. Ce garçon, en plus, on le sait, a un caractère assez particulier. Il a besoin de se sentir aimé, comme beaucoup de sportifs de haut niveau. J'ai peur. J'espère qu'il va aussi pas les perdre, comme il avait perdu.
Je suis d'accord
comme
avec
il
toi.
Avait perdu son vestiaire au Stade Français, comme il avait perdu son vestiaire à Montpellier. Mourad Boudjelal, qu'on connaît bien dans les grandes gueules du sport, disait d'ailleurs de Galtier. Galtier, c'est un joueur d'échecs. C'est Kasparov. En revanche, ce n'est pas un gestionnaire d'humains. Il ne faut pas oublier que l'on gère des hommes et pas des robots. Autre citation, celle de Raphaël Poulain dans son bouquin. Il a été joueur du Stade Français et entraîné par Galtier. Un jour, Galtier vient lui dire « T'es vraiment énorme dans la déconne, Raphaël, mais je crois pas que t'es le niveau pour jouer en top 14. » Et Poulain de répondre « Humainement, tu ne vois rien, tu devrais être interdit d'entraîner, tu déchires tes joueurs comme un teckel s'acharne sur de mauvais bouts de barbac. » J'espère que le teckel ne va pas mordre trop fort.
Et c'est très intéressant ce que tu viens de nous lire. Qui veut réagir ? Jérôme et puis Sarah qui est dans l'autre camp quand même, qui pense que ce n'est pas un problème, mais je sens que Jérôme, tu avais envie de réagir.
Non mais ce qui est... alors j'ai pas une longue carrière de manager, mais j'ai étudié cela et j'ai été chercher des outils pour le faire, et je suis très très surpris de la posture que occupe Fabien Galtier et comment il manage. C'est-à-dire que comment peut-on avoir des valeurs de fond du management et changer d'avis en un an comme il l'a fait là,
et changer certains senseurs. Parce que les résultats sont pas là.
Et ben justement,
et que rien n'est gravé dans le marbre, et que le principe d'un manager, c'est aussi de s'adapter.
Il est passé à. C'est pas la Starac, mais maintenant, je vais prendre les choses en main, et il fait du découpage d'humains. C'est pas du management. Le jour où les 14 qui rentrent chez eux, à qui il dit tu rentres, tu vas progresser, reviens, tu seras plus fort, et qu'il les refait jouer, il faut pas qu'ils disent que c'est les meilleurs, parce que du coup, les mecs, là, il va les perdre complètement. Le problème de Fabien Galtier aussi, c'est sa gestion dans les moments compliqués. Pour l'instant, il a un peu le totem, mais ça va pas durer. Il va falloir qu'il ait.
Et il l'aura jusqu'à la Coupe du Monde.
Exactement. De toute manière, il l'a jusqu'à la Coupe du Monde.
Oui, mais il va perdre ses cadres.
Je suis assez d'accord avec toi, Jérôme, hein, parce que j'ai dit que ça pouvait être, au bout du compte, peut être épineux de traiter les joueurs comme il le fait. Mais sans vouloir encore une fois démentir ce que dit Wilfried, il est beaucoup plus près du 15 de France que je ne le suis. Malgré tout, et il le sait, il sait mon amitié pour lui, Will. Il est pas malgré tout au sein du truc. Donc moi, j'aimerais savoir ce que Penaud en pense. C'est ça l'important.
Mais ça, on ne le saura pas.
Voilà. Mais on ne le saura pas.
Il ne parle jamais.
Alors, il n'est pas content. Je le prends comme une info. Il n'est pas content. Donc, ça veut dire qu'il a beau avoir parlé deux heures avec lui.
Bien
il
n'est
pas
Pascal,
content. Mais c'est normal que Penaud ne soit pas content.
Bah oui.
C'est normal. C'est normal parce qu'il est. Il est très bon. Oui, il veut le titiller. Il veut le titiller. Mais ça veut dire que à partir du moment où il a considéré Galtier que Damien Penaud n'était pas très bon défensivement en Angleterre, il a considéré que Damien Penaud, oui, c'était vrai, mais c'était le seul qui a été pointé du doigt presque.
Avec
Jalibert. Et ça veut dire, comme tu l'as très bien dit, Christophe, que Dupont, que Ramos, ils ont été très bons dans ce secteur de jeu-là. Donc, Damien Penaud, à partir d'aujourd'hui, il pense que c'est plus un cadre.
Est-ce qu'on peut avoir une
autre... Donc, à partir de là, il va falloir que le garçon, parce qu'il est fort à parier qu'il va revenir contre l'Irlande, pour voir si le management de Galtier a eu un impact sensible, il va falloir attendre la performance de Damien Penaud contre l'Irlande. Avant cela, on peut rien dire. Parce que si le joueur est touché psychologiquement, alors on pourra dire que Galtier, il a mal géré le coup.
Ok, très bien. C'est très intéressant, mais on attend ta lecture.
Moi, j'ai une autre lecture de ce cas-là, c'est de comprendre pourquoi le management de Fabien Galtier a autant évolué dans cet espace d'un an. Est-ce que ce côté où il était ultra protecteur. C'est-à-dire que finalement, même si on avait un doute sur les joueurs qui étaient sur le terrain et leurs prestations, il était toujours devant, il faisait écran. Est-ce que le fait aujourd'hui de responsabiliser les mecs qui sont sur le terrain font pour autant un mauvais manager? C'est aujourd'hui...
Non.
Et ben donc ma question,
il a évolué dans son management.
Ben, donc pour moi,
il y a un avant et un après quart de finale face à la Finlande.
Ah oui, c'est
voilà.
Pas un problème. Il est en train de changer son management, où il veut responsabiliser ses cadres. Si ses cadres, à un moment, pour telle ou telle raison, ne sont pas à la hauteur, il les écarte ou en tout cas, il dit bah là, t'as pas été performant, donc j'essaie autre chose. Je vois pas en quoi c'est dangereux pour les cadres. Et on est très loin de la fronde. On est très loin de la fronde des cadres.
Parce que, comme l'a très bien dit Christophe, pour l'instant, ça ne touche pas.
Pour le moment.
Oui.
Pour le moment, ça ne touche pas des garçons qui...
Puisqu'on dit qu'il a un totem d'immunité jusqu'en 2027, il est quand même là. Et ça doit commencer à l'énerver sérieusement que ses titres ne tombent pas. Donc, qu'il change son management. Pour vous, automatiquement, ça doit avoir une incidence problématique sur les cadres. Mais là,
pour moi, c'est pas répréhensible.
On est en train de confondre les deux.
Moi, je pense que c'est le rang qu'il a voulu accorder à Damien Penaud. Ben, c'est pas celui qu'il dit lors des interviews. Parce qu'autrement, il aurait fait une économie de l'enlever. Moi, je lis ça comme un manager.
Il y a la communication dans les médias, il y a presque dit en interne.
L'équipe de France a perdu en Angleterre. Oui, Damien Penaud et d'autres ont mal défendu. Mais il y a un match après, c'est l'Italie. Et sauf si Damien Penaud demande à souffler, ce qui semble pas être le cas, parce qu'autrement, il serait pas mécontent d'être enlevé de la liste, eh bien, Damien Penaud, à partir d'aujourd'hui, fait pas partie des cadres. Moi, je le lis comme ça. Et certainement que le joueur le lit de cette manière-là. Puisqu'alors, il y a deux poids, deux mesures.
La problématique, c'est que à partir du moment où tu nommes quelqu'un, tu nommes une méthode ou tu nommes un homme? Tu nommes un homme avec ses pratiques, ses méthodes.
Oui, mais sa méthode, t'as raison, mais est-ce que la méthode peut évoluer?
Elle peut évoluer, mais là, elle a drastiquement changé.
Mais on est d'accord.
Évoluer, drastiquement changer, si au bout, tu vas chercher des titres et des victoires. Aujourd'hui,
ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
Il y a quelques rendez-vous manqués, déjà. On peut le constater. Il y a eu quelques rendez-vous manqués. Aujourd'hui, sa méthode, c'est pour ça que je dis oui par rapport au cadre, parce que il faut que ça continue à gagner.
Vous voulez intervenir?
Pascal, à l'inverse, la concurrence, c'est quand même l'essence d'un groupe.
Absolument.
L'essence d'un management d'entraîneur. Si on voit que, il disait, c'est pas Koh-Lanta, c'est pas Star Academy, je laisse les mecs en 50, 60, mais si on les laisse tout le temps, quelle que soit la performance, le groupe, il va
s'arrêter. Non, mais moi, je faisais le cas particulier. De Damien Penaud.
Mais c'est arrivé à Aldrit. En novembre, il était en tribune. C'est arrivé à Olivon. C'est arrivé à Ficou. Le banc ou la tribune. Donc, Damien Penaud, c'est vrai que ça n'a pas été le seul à ne pas être bon, mais il lui reproche un 2-7 au placage. Il lui reproche le dernier rock où Thomas Ramos se fait sanctionner et amène la pénalité laissée des Anglais. L'action défensive. On ne peut pas contredire Fabien Galthié là-dessus
Il faut savoir maintenant comment les joueurs prennent ce genre de choses. Et ça, peut-être que Pascal, tu pourrais nous en dire. Parce que toi, t'es coach. Quand tu choisis de temps en temps de piquer un joueur parce que sa prestation n'a pas été bonne, comment tu le fais? Est-ce que tu mets
l'effort? C'est pas pareil en club et en sélection. Tu dois être encore plus précautionneux.
Très bien connaître l'homme.
Parce qu'en fait, en sélection, il joue pour le maillot, quoi qu'il arrive. Donc, Damien Penaud, il va pas envoyer tout chier. Il a envie de faire la Coupe du Monde. Il a envie de battre le record des essais.
Il peut pas changer.
Donc, il sera là. En club, c'est pas pareil. En club, tu l'as tous les jours.
Jalibert,
ton buteur, tu le mets pas. Ça se trouve, tu le perds.
Jalibert a été tenté la dernière fois durant la tournée d'automne. Il a quitté Marcoussis.
Ce que je voulais dire, et vous en conviendrez tous avec moi, on peut pas critiquer ce que fait Galthié parce qu'on n'est pas à l'intérieur de son groupe et c'est son management. Par contre, l'efficacité de la mise à l'écart de Damien Penaud, réponse en Irlande.
Il faut pas perdre en Italie aussi.
On parle que d'Irlande,
il y a un match cet après-midi.
On a Jérôme et Sarah qui nous ont dit qu'ils allaient mettre une pile aujourd'hui contre les Italiens. Donc nous, on y a cru bêtement avec Christophe.
J'ai pas dit qu'il mettre une pile, qu'une victoire nous suffirait amplement.
Vous êtes tellement large avec un carton, c'est vrai que vous êtes réputé pour être un
mouton, Christophe et Pascal.
Un bonus offensif.
Dès qu'on vous dit quelque chose, vous nous suivez.
Oui,
c'est ça.
Oui, bah absolument. Vous bah, y avez oui, cru, on est bien connu pour ça.
Oui, bien sûr.
Mais attention, parce que l'émission est enregistrée quand même. Donc, on ressortira les bandes son en temps voulu.
Ah, bah oui, bah alors là, quand tu
veux. Quoi, je vous apprends un truc, c'est même en direct.
Toi, tu veux 30 points d'écart, il dit que c'est pas un carton. Déjà, c'est
pas on va pas revenir sur le débat 10h. Allez, réécouter en podcast, c'était très chaud, comme toute l'émission d'ailleurs, dans le studio RMC. Christophe nous appelle au 32-16. Oui, je suis bien d'accord.
Bonjour Christophe. Ah, j'ai cru que c'était Pablo, pardon.
Oui, bonjour à tous.
Pablo, il se cache.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec Pablo. Nous, Christophe. Bon, la gestion des cadres, est-ce que ça peut être un problème?
Oui, moi je pense que c'est un problème au niveau gestion humaine. Fabien Galthié, pour moi, ça n'a jamais été bon. J'ai rien contre lui personnellement, mais ce que je constate, et j'en ai parlé avec des personnes qui sont dans le milieu du rugby à un certain niveau. Bon, je ne vais pas
m'épiloguer
là-dessus. Non, pas du tout. Surtout pas. Mais gestion humaine, pour moi, c'est pas bon. Jalibert, quel intérêt, en sachant que Jalibert, tout le monde le voit, c'est un très bon joueur, mais il ne défend pas correctement. Il ne plaque pas, il ne défend pas. On sait que Galthié, ça va pas passer avec Jalibert. Ne le convoque pas. En revanche, moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi, en ce moment, un gars comme Baptiste Serin,
qui est énorme,
oui, n'est pas convoqué.
Parce que c'est pas, un numéro 2, Baptiste Serin.
Je peux finir.
C'est un numéro 1.
C'est un numéro 2, mais Dupont qui est intouchable.
Il peut jouer partout.
Pourquoi il ne tente pas une charnière Dupont en 10 et Serin en 9? Pourquoi il ne tente pas ça? Parce que Serin en ce moment, d'ailleurs, il est peut-être meilleur que Dupont en ce moment, Serin.
Oui.
Je comprends pas, parce que Jalibert, il a défoncé Jalibert, l'autre fois, le gamin, il sort, il est moralement, il rentre, il est séché, quoi. Je comprends pas, ça. C'est des trucs, juste qu'on m'explique, ça découle de la logique simple. Et le gars, et j'en ai parlé récemment avec un ami, donc, qui entraîne à un certain niveau dans le rugby, et qui a justement joué demi-mêlée, à un très bon niveau aussi, et il me disait, pour moi, c'est impensable que Jalibert soit sélectionné en ce moment, et qu'il ne tombe pas une charnière du pont en 10 et Serin
sur le management de Fabien Galthié. On se souvient quand il était à Montpellier.
Montpellier réussissait parce qu'il y avait Eric Béchu. Parce qu'il y avait Eric Béchu. Le recruté Eric Béchu, c'est lui qui moralement tenait les troupes, qui humainement tenait les troupes. Là, la gestion humaine, excusez-moi, mais permettez-moi d'avoir des doutes, quoi. Je n'ai rien personnellement contre lui, mais vu ce qu'on voit de l'extérieur, en parlant avec des gens qui connaissent vraiment le rugby, on peut avoir des doutes sur sa gestion humaine.
Ok, bah c'était parfaitement clair. Merci Christophe d'avoir été avec nous.
Si on peut citer notre collègue de l'équipe Renaud Bourrel, il écrivait ce matin au sujet de Fabien Galthié, HPI en rugby, mais handicapé du management.
Voilà, c'est pas mal.
Ok, je connais très bien Renaud Bourrel, je l'embrasse. Est-ce que tu
connais un certain Denis Charvet? Ça se passe bien ces vacances à Rome?
Si vous avez des nouvelles de Denis Charvet, je veux bien en prendre, parce que je l'ai croisé devant l'hôtel hier. Il passait en coup de vent vers un taxi. Il partait. Salut. Ah, j'ai dit Denis, tu es là.
Donc, il sera bien là cet après-midi pour le match.
J'espère.
On va lancer une alerte enlèvement.
Alerte enlèvement pour Denis Charvet. Enlevé par une troupe d'Italie.
C'est dans. c'est le pire, c'est que c'est possible. Et on embrasse la femme. Dans 4h30, c'est le match entre l'Italie et la France.
Toujours les mots sympas, Christophe.
il en rate pas une, Christophe. Hein. Tu le connais. Merci, Wilfried. On te retrouve tout à l'heure, évidemment, émission spéciale autour de ce match entre l'Italie et la France avec Denis Charvet, on l'espère. À tout de suite sur RMC, on revient dans quelques instants.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. Dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous. On va revenir sur cet épisode hier de l'Olympique de Marseille et les propos de Pablo Longoria qui a parlé de corruption. Évidemment, les arbitres sont vent debout. Le syndicat des arbitres était avec nous ce matin. Nous essayons évidemment d'avoir les dirigeants marseillais. Je vous donnerai d'autres informations dans quelques instants. Sachez qu'il y a un direct en cours. C'est du ping Pong avec Alexis Lebrun qui est en demi-finale du top 16 européen. On retrouve à Montreux en Suisse Léna Marjac. Salut Léna, malheureusement on n'aura pas le duel des frangins.
Et oui, non, pas cette demi-finale 100% Lebrun, mais quand un Lebrun perd, il y en a toujours un qui gagne quand même, puisque bah, Alexis est en demi-finale dans le dernier carré de ce top 16 européen et il va jouer donc le tombeur de son petit frère hier, c'est l'Allemand Patrick Franziska, 8e mondial. Dans quelques instants, la rencontre va commencer puisque les deux joueurs ont terminé leur échauffement, mais Alexis n'a clairement pas l'avantage des pronostics en 3 rencontres sur le circuit international, et bien 3 défaites face à Franziska, donc ce sera un match compliqué aujourd'hui pour le Français, mais il pourra contre le soutien du public. La salle est presque pleine et tout le monde est acquis à la cause de Alexis Lebrun. Et j'y sais, petite exception quand même hier, c'est cette défaite de Félix qu'on attendait puisqu'il était la tête de série numéro 1 de ce tournoi, mais il s'est incliné donc en 5 manches 3-7-2 face à Franziska, et c'est une déception clairement. Écoutez-le après ce match hier.
Il y a 3-2, mais il a été bien meilleur que moi sur l'ensemble du match. Je me battais avec ce que j'avais et c'est pour ça que je suis pas forcément hyper énervé là, parce que j'ai donné le maximum. C'est juste que mon niveau était trop bas pour battre un joueur de ce niveau là quoi. Je manque de régularité, je peux pas dire que la compète est positive, je voulais aller plus loin.
Et donc Alexis va essayer de prendre sa manche sur son petit frère face à Patrick Franziska. Le match commence à l'instant et donc premier point pour Alexis Lebrun.
Parfait, on va suivre ça évidemment avec toi Léna Marjac. Bon match et à tout à l'heure, et évidemment allez Alexis Lebrun. Allez, tout de suite on va remonter le temps.
3 cas du coronavirus chinois ont été confirmés en France vendredi soir. 2 de ces patients sont hospitalisés à Paris à l'hôpital Bichat, le 3e à Bordeaux. Il s'agit des premiers cas répertoriés en Europe. Les 3 patients, dont 2 au moins reviennent de Chine, ont été placés à l'isolement.
Christophe, 19 février 2020, l'Atalanta de Bergame, Valence, c'est un match de Ligue des Champions, détonateur du coronavirus.
Ce 19 février 2020, effectivement, c'est soir de fête à San Siro. Pour la première fois de son histoire, l'Atalanta de Bergame a obtenu le droit de disputer un 8e de finale de Ligue des Champions. Et comme le stade de cette modeste cité lombarde est trop petit, on décide de délocaliser à Milan, la capitale régionale. Pas vraiment un souci pour les 35 à 40 000 supporters de la DA, le surnom de l'Atalanta, qui en un rien de temps vont avaler les 55 km qui les séparent de San Siro. L'ambiance est à la fête, personne ce soir-là ne semble se soucier de cette musique lancinante qui depuis un mois occupe les conversations un peu partout sur la planète.
En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Une épidémie qui inquiète, d'autant plus que le nouvel an chinois approche. Le virus pourrait se propager à l'étranger.
Si la Chine est confinée depuis quelques jours, en Italie, on ne semble pas plus inquiet que cela. Les cas de Covid sont rarissimes et ne concernent jusque-là que des touristes chinois. Alors, pas question de gâcher la fête. Dans les rues de Milan, supporters de l'Atalanta et du club espagnol de Valence chantent à tue-tête et vont même jusqu'à fraterniser. Un match que les joueurs de l'Atalanta vont dominer de la tête et des crampons, s'imposant 4-1. Ce 19 février, c'est aussi soir de fête pour Massimo Barchesi, le jeune Orseguier de la RAI.
2-0 al 42esimo. Rete! Un altro gol magnifico!
Dans les travées de San Siro, c'est de la folie. Les tifosi de la DEA sont en transe. Ils crient, ils chantent, s'embrassent. Et c'est avec des étoiles plein les yeux qu'ils regagnent Bergame au bout de la nuit. Mais 3 jours plus tard, le Covid va rattraper l'Atalanta, Bergame et toute la Lombardie.
Breaking news. Sono 6 casi positivi al coronavirus in Lombardia.
Il coronavirus arriva nel nord Italia.
Una quarta vittima che è morta all'ospedale di Bergamo.
En quelques jours à peine, la petite ville lombarde devient l'épicentre du Covid en Italie. 1 cas, 10 cas, 100 cas. L'hôpital va bientôt déborder avant que la morgue et le crématorium de la ville ne puissent plus, eux non plus, répondre à la demande macabre. Bergame tremble au rythme des sirènes des ambulances. Nous avons réalisé que le problème était plus grave à Bergame qu'ailleurs à cause des sirènes. Cette nuit, ce bruit, constamment ce bruit, toute la journée, toute la nuit. Comment expliquer que Bergame soit devenu en si peu de temps l'épicentre de la maladie ? Rapidement, le rapprochement va être fait et le match pointé du doigt par les médecins et statisticiens italiens, dont Aldo Cristadoro, patron d'un institut de recherche. Nous avons constaté que sur les 36 000 supporters bergamasques présents au stade ce soir-là, 1/5 d'entre eux avaient déclaré dans les 2 semaines suivantes des symptômes distinctifs du Covid. Un match que les médecins italiens vont même qualifier de bombe biologique. Une énorme déflagration qui, en l'espace d'un an, emportera avec elle près de 30 000 habitants de la région de Bergame, un tiers de toutes les victimes du pays. En quelques heures à peine, ce qui devait être la plus belle fête de l'histoire de l'Atalanta s'est mué en détonateur du plus grand malheur de la ville et de sa région.
Merci beaucoup Christophe Cessieux pour cette histoire résumée en quelques minutes. C'était il y a 5 ans. Pourtant, il paraît que on a l'impression que ça fait une dizaine d'années. Et pourtant, c'était seulement il y a 5 ans, ce match déjà détonateur, en tout cas pour les Italiens du coronavirus, ici sur le sol en Europe, à Atalanta de Bergame face à Valence. Déjà, quel souvenir ça vous procure déjà, Jérôme Pinault?
Bah moi, j'ai un souvenir très précis puisque j'étais sur Paris-Nice et Paris-Nice était un hôtel en région parisienne avec David Ebramati, directeur sportif de l'équipe Quick-Step, était dans la même équipe que nous. Et j'ai le souvenir de David venir me voir, me dire, il se passe quelque chose chez moi. Il est de Bergame. Je tiens à préciser. C'est incroyable. On est en train de fermer la ville et tout le monde est malade. Il y a des morts, etc. Et nous, c'était juste le début. C'est ce fameux Paris-Nice qui est pas allé au bout, ouais, justement. Et ça a été, le soir-là, une espèce d'effroi, chez tout le monde et de cette peur qui s'est installée. Rappelez-vous, à l'époque, Covid, maladie, mort. C'était ça, oui, dans la tête des gens. Et il fallait d'un coup, nous, les sportifs, les gens qui vivons en troupe, en meute, il fallait se séparer et plus dire bonjour. Je me souviens, moi, de mon trajet retour de Nice, puisqu'on a annulé la dernière étape, l'étape, il fallait rentrer vite, sur la route, seul dans ma bagnole, en disant, mais qu'est-ce qu'on va devenir, ouais,
qu'est-ce qui est en train de se passer,
ouais, c'était très, très étrange. J'ai un peu le sentiment d'avoir connu un début de conflit, guerre, quoi, tu vois, c'était vraiment un peu ça. Il y avait plus un chat, tout le monde rentrait chez soi, il fallait surtout pas parler à son voisin. Et ce moment-là de Bergame, je me rappelle très bien ce que David m'avait marqué dans son témoignage. Il était très inquiet et il avait raison d'être puisque quelques mois plus tard, nous avons discuté et il a effectivement perdu un certain nombre de membres de sa famille. Et
je rappelle que à ce moment-là, nous sommes le 19 février et le temps c'est un petit peu allongé parce que le 19 février, on est très loin en France de se dire que ça va devenir cette maladie, l'ampleur que ça a pu prendre.
On comprend pas ce qui se passe en Italie. Parce que on dit non, mais c'est pas possible. Le système sanitaire en Italie est tel que c'est normal que ça leur arrive. Mais à nous, ça nous arrivera pas.
Le confinement en France, c'est un mois plus tard.
Ouais, ouais. Mais nous, on croyait au-dessus. On croyait au-dessus à l'époque.
Paris-Nice, c'est le début mars. Donc, c'est quasiment un mois plus tard que, même à Bergame, hein, on commence à se dire, on va tout fermer. Moi, je me souviens qu'ils ont tout fermé. Le samedi précédent le grand départ de Paris-Nice, le lendemain, la ville de Bergame était fermée, mais ils ont attendu quasiment eux aussi.
Et ils ont perdu trop de temps.
D'accord,
parce qu'on parle du détonateur qui a été ce match. Ils ont fermé très vite. En Italie,
oui, mais en Chine,
avait
ça c'était
des moyens de lutter contre le truc.
Oui, mais en Chine, ils savaient avant, c'est que ça n'avait pas fuité. Mais vous imaginez? Là, on se remet 5 ans en arrière, en février, c'est-à-dire 5 jours après, une semaine après. Vous imaginez un pays, nos autorités qui prennent la décision de tout fermer. Mais on n'aurait jamais compris, en fait.
Mais rappelez-vous les premières prises de parole de notre président de la République. On criait après lui qu'il fallait qu'on reste chez nous.
Il y a eu une image, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais à Bergame, il y a une image terrible qui a été un peu symbole de l'épidémie en Italie. C'est les camions de l'armée qui sont en pleine nuit venus dans la ville, qui ont chargé les corps parce que le crématorium ne pouvait plus s'occuper de tous les cadavres. Et il y avait une file d'une vingtaine de camions militaires qui a chargé les corps et qui est parti en pleine nuit. Les rues étaient désertes et c'est des images qui ont traumatisé l'Italie et qui ont fait qu'elle a fermé très vite finalement, à la différence de la France qui a mis un peu plus de temps.
Mais un peu plus de temps, mais souvenez-vous, on est le 11 mars, on a un PSG Dortmund donc, qui se joue, déjà à huis clos. Le 11 mars, il est déjà à huis clos, mais le souci, c'est pas
les
tant huis clos, mais les gens ne comprenant pas, parce que effectivement on ne pouvait pas comprendre et intégrer ces informations-là en si peu de temps, les rassemblements qui se faisaient au pied du stade étaient finalement tout aussi dangereux que de rentrer dans un stade. Donc déjà le 11 mars, on est déjà, nous, en position dans les rassemblements sportifs d'éviter ces rassemblements. Les décisions, elles ont été prises relativement assez vite, mais il fallait intégrer ce qui se passait.
Et je me souviens qu'à l'époque, même 2 jours après ce match Atalanta-Bergame-Valence, il y avait déjà des polémiques pour dire mais pourquoi il y avait autant de monde dans ce stade. Déjà à l'époque, tout de même. Pascal, toi t'étais à Caen à l'époque, comment ça s'est passé là?
J'ai connu la période où avant que ça ferme définitivement pour ce qui est du championnat, donc on s'entraînait par petits groupes et franchement on n'y croyait pas tellement en fait. On n'était pas conscient du danger et ça nous perturbait beaucoup à titre personnel. Et ben l'équipe tournait bien, je les avais pris alors qu'ils étaient à la rue et on les redressait. Malheureusement le championnat s'est arrêté. Voilà, donc c'était avant de prendre conscience du danger. Je sais pas si c'était pareil pour vous, mais on a l'impression que c'était une grosse connerie. En tout cas, moi, je le prenais comme ça.
L'impression que c'était démesuré, en fait, que les décisions étaient totalement démesurées.
Ouais. Alors moi, pour avoir vécu le moment avec beaucoup d'étrangers, notamment d'Italiens, on avait quand même déjà les prémices de ce qui allait nous arriver si on faisait pas ce qu'il fallait, parce que on a mis sur le, au départ, oui, en Italie du Nord, ils vivent en famille, ils sont 10 dans les apparts, etc. Ok. Mais pour côtoyer des Italiens souvent et travailler avec eux très souvent, moi, je me souviens de Luca Mozzato qui était dans mon équipe. On a quand même, nous, pris conscience très vite dans l'équipe et dans le vélo qu'il allait se passer des choses très graves et qu'il fallait vite réagir. C'est aussi pour ça que la décision de Christian Prudhomme ce jour-là d'arrêter la course et d'y rentrer chez vous a été la meilleure décision qu'il ait pu prendre.
Mais Christian s'est bagarré pour que le Tour de France ait lieu. Malgré tout. Il l'a reporté.
Le Tour de France a pu se dérouler en septembre.
À la différence du foot. Et là aussi, à l'époque, il y avait eu une guerre entre les différents patrons du foot français. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était pas bon ces disputes incessantes. Parce que ils ont hésité et ils n'ont jamais repris ce championnat. Et c'est sans doute.
Ils ont suivi le gouvernement.
Mais regarde, Prudhomme aussi a suivi le gouvernement. Mais il a fait reprendre le Tour de France.
Oui, non, mais attends,
à la fin
le Tour
mois
de
d'août.
Oui, mais c'est un événement là.
Tous les autres championnats ont repris.
Oui, Roland Garros aussi a été décalé.
Des millions d'euros comme a pu le
faire.
Oui,
mais Roland Garros, enfin, je veux dire, il y a des événements qui pouvaient possiblement se décaler. Parce que le Tour de France, c'est une fois par an. Mais t'aurais fini. Admettons que tu reprennes ta Ligue 1.
Il restait combien de journées à.
Non.
Mais t'aurais pu.
10 ou 11.
Mais tu fais
Sarah,
tu fais
tous les autres championnats ont fini leur championnat.
Hein. Oui,
les cinq plus grands championnats européens.
Ça a été le point de départ de la crise financière.
Le seul qui a décidé d'arrêter son championnat, c'est la France. Hein.
En tout cas, de ne pas le reprendre.
On a repris en mai. Je me souviens on n'avait plus aucun événement, on n'avait plus aucun direct, et d'un seul coup, l'Allemagne reprenait. On avait fait un multiplex sur la Bundesliga parce que c'était le premier événement de football après la première crise du Covid. Il y en a eu d'autres derrière.
Par rapport à ce que tu dis, je me souviens que c'était des mesures, ce que nous disaient nos dirigeants, c'était une mesure prise au sommet de l'État,
oui.
Et que en fait ils étaient avec ses homologues européens, notre président était en face pour ce qui est des arrêts des championnats. Et c'est avéré que ils sont arrêtés, mais que
les autres ont repris.
Exactement.
Quand il en coûte, ça a coûté beaucoup à la France et au football.
Exactement. Et c'est important d'en reparler. C'était les 5 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, Christophe. Léna Marjac, toujours en direct de Montreux. Comment ça se passe pour Alexis Lebrun?
Avantage Alexis Lebrun dans cette demi-finale puisqu'il a remporté la première manche 11-8 et là il mène 7-4 dans la deuxième face à l'Allemand Patrick Francisca.
Ah, c'est vrai que le ping-pong, il faut chuchoter comme le tennis dès qu'on est sur un point. Merci Léna.
On est pas très loin de la table.
Dans quelques instants, on va parler de la corruption Olympique de Marseille, Pablo Longoria, les dernières informations. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport avec ce matin Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Cessieux. Tout va bien pour Alexis Lebrun qui mène 2-7-0 face à l'Allemand Francisca. Sachez qu'il est en train de venger son frère et est bien parti pour se qualifier pour la finale du top 16 européen. On retrouvera Léna Marjac à Montreux un petit peu plus tard. Mais reparlons évidemment de cette affaire ce matin, de l'Olympique de Marseille qui s'est incliné hier 3-0 sur la pelouse de l'AJ Auxerre après la rencontre. Déclaration lunaire totalement folle de Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui a explosé de rage, de colère dans les tribunes de la Baie des Champs, puis dans les couloirs face aux journalistes. Voici ce qu'il a déclaré.
J'avais vu dans ma vie, c'était tout préparé. Ça, c'est de la pré-corruption. Vous pouvez dire, Pablo Longoria l'a dit, ça, c'est de la pré-corruption. C'était tout orienté depuis les cartons à Valerdi. Tout orienté.
Il a déclaré, par ailleurs, ici, tu ne peux plus jouer. Qu'est-ce que tu vas faire s'ils organisent demain une Super League? Je pars en Super League, pas dans ce championnat de merde. Si j'ai une proposition, je pars tout de suite. Un petit peu plus tôt dans la matinée, nous étions avec Olivier Lamar, porte-parole du syndicat des arbitres. Et voici ce qu'il nous disait. Évidemment, il était scandalisé.
Tous les arbitres français sont non seulement choqués, mais scandalisés. Non, non, monsieur Longoria, les arbitres français ne sont pas corrompus. Et quand on dit cela, c'est bien mal connaître tout le travail qu'ils font, c'est bien mal connaître le foot français de l'intérieur, en tout cas son arbitrage. Alors peut-être que ça peut arranger de dire cela, et peut-être que ça peut être une grosse ficelle pour parler dans la foulée de la Super League dans le contexte économique que l'on sait, mais c'est inacceptable, parce que derrière, quand un président dit cela, eh bien ce sont des messages haineux, des appels de mort qui sont diffusés sur les réseaux sociaux par des dizaines de personnes envers l'arbitre et envers l'arbitre d'hier soir, Jérémy Gissina, et envers l'ensemble des collègues arbitres. Et quand on fait ça, on met en risque, on met en danger les collègues qui arbitraient hier soir, mais plus globalement, tous les arbitres français de niveau amateur, de district, de ligue et des championnats professionnels, parce que quand on met ça, on les jette en pâture, et c'est vraiment méconnaître tout le travail qu'on fait à tous les niveaux pour éviter cela.
Voilà pour la déclaration ce matin dans les grandes gueules du sport d'Olivier Lamar. Sachez que le président du Conseil national de l'éthique et de déontologie de la 3F, Frédéric Thirier, l'ancien patron de la LFP, va saisir la commission de discipline de la LFP pour dans les prochaines heures après les propos de Pablo Longoria. Voilà la dernière information. Et puis vous le savez, depuis ce matin, nous sommes en contact avec la com de l'Olympique de Marseille pour savoir s'ils veulent réagir. Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli, qui a également pris la parole hier. Voici la réponse de l'Olympique de Marseille. Ils sont pour le moment dans une phase d'analyse et c'est compliqué pour eux d'intervenir ce matin, peut-être un petit peu plus tard dans la journée. Sarah, nous avons des auditeurs qui nous appellent au 32-16, mais au niveau de la communication, c'est normal que Marseille ne s'exprime pas maintenant?
Oui, c'est normal qu'ils ne se précipitent pas pour communiquer maintenant, pour trouver les bons arguments pour positionner les propos de Pablo Longoria et en tout cas de tenter d'une manière ou d'une autre de les minimiser.
T'es obligé
de trouver une porte de sortie.
S'il y avait 48 heures d'avance, ils avaient pensé à ça, à prendre du recul avant de prendre la parole. On n'en serait pas en parler.
Oui, enfin, tu
la
prends pas du recul. En l'occurrence, c'est une colère
vidéo,
froide.
Il y a qui circule sur les réseaux sociaux sur le comportement de Longoria hier.
Dans les tribunes. Oui, j'en parlais tout à l'heure.
J'ai pas saisi. Comme un dingo, comme un possédé, quoi. Il est là, il saute dans tous les sens. Il a l'air possédé par le démon, quoi. Un truc de fou.
Ouais, mais ses propos, enfin, je veux dire, il a. Ses propos sont hors propos, c'est-à-dire qu'il a perdu complètement les pédales et effectivement ça se nourrit d'une frustration ou d'une colère qui a dû se nourrir pendant tout le match, où lui, de sa perception, il a dû voir qu'il n'y avait que des fautes d'arbitrage contre ses joueurs et qu'il s'est monté en se disant qu'effectivement, ils sont persécutés. Et donc, en fait, il sort de là et ça explose. Mais là, il faut absolument trouver les moyens pour l'Olympique de Marseille, en tout cas de le diminuer. Ils vont pas l'éteindre, de le diminuer et de trouver une phase de discussion pour apaiser aussi les relations avec les arbitres.
Évidemment, on en parle tout au long de la journée sur RMC. Laurent nous appelle au 32-16. Laurent, qui est président de la commission régionale des arbitres de Franche-Comté-Bourgogne. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour à tous.
Bon, j'imagine que vous êtes aussi, comme les autres arbitres, scandalisé ce matin.
Bah écoutez, dans un préambule, je vous tenais à vous remercier de donner la parole à des personnes qui travaillent au quotidien au niveau amateur et qui servent le football en passant des heures et des heures et des journées pas très faciles à gérer concernant l'arbitrage au niveau amateur. Et c'est sûr que lorsque l'on constate des telles communications de la part de personnes à haut niveau, l'influence qu'il peut avoir sur les terrains de campagne issus des différentes compétitions départementales et régionales ne peuvent aboutir qu'exactement au même contexte. C'est anormal qu'une personne comme monsieur le président de l'OM de Marseille interpelle l'arbitrage français et il ne comprend même pas les conséquences que ça peut avoir sur nos terrains de campagne. Comment voulez-vous après gérer des manifestations d'humeur, des manifestations verbales et même comportementales de la part de présidents de clubs régionaux et départementaux qui voient ce qui se passe à haut niveau? Et ben, cet après-midi, il se peut que le président d'un club issu de notre territoire, patron d'une petite entreprise, une boulangerie ou une entreprise de charpente, manifeste son désaccord par rapport à une décision d'un arbitre amateur qui fait tout son possible et qui passe assez de temps au niveau de la formation et tous ses week-ends pour des indemnités totalement basses. Et voilà, ils ne comprennent pas ces gens-là que nous, les personnes, les bénévoles, je précise bien les bénévoles, travaillant au quotidien et faisant ce que l'on peut faire pour améliorer l'arbitrage de la base de la pyramide, ou que nos meilleurs éléments officieront dans quelques temps, et on le souhaite tous à haut niveau. Donc voilà, j'espère que les instances nationales saisiront le dossier et qu'ils soient vraiment à l'écoute de nous autres, les bénévoles travaillant au niveau de l'amateur arbitrage.
Et vous avez raison, Laurent, c'est pour ça qu'on parle souvent d'arbitrage amateur aussi, et les répercussions que ça peut avoir sur les amateurs, c'est absolument dramatique.
Hein. Mais comme le comportement des joueurs, comme les comportements de tous, les gamins, les clubs en amateur, regardent ce qui se passe plus haut, évidemment.
On s'autorise à faire les choses qu'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux.
Après je pense qu'il ne faut pas... il faut surtout pas banaliser, mais de là à prendre cette ampleur-là, ce qu'il a dit est très grave. Je pense pas que le fond soit tout le monde pense maintenant comme Pablo Longoria que c'est faux.
Il y a eu beaucoup de supporters revenir sur la, pour nous dire voilà, qu'il trouvait qu'il avait totalement.
Pour revenir sur la com aussi, enfin, il est temps, il est grand temps. Avec hâte, et me semble que ce monsieur-là, monsieur Longoria, a un supérieur, enfin en tout cas monsieur McCourt. Il est grand temps qu'il présente ses excuses déjà pour commencer. Mmh. Là où je te rejoins
et
pas, Sarah, c'est
Franck McCourt prenne la parole.
Donner un fond. Oui. McCourt, ouais. McCourt non, appelle Longoria en disant tu appelles
mais,
déjà.
Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas en train de se faire?
Ah, peut-être.
On parle d'hier à
20h. C'est déjà tard, Sarah, il est midi.
Ouais, mais moi, ce que j'espère, c'est que. Je sais pas, j'espère, je suis pas à leur place. Mais plus pour moi, et j'ai le sentiment que plus vite Pablo Longoria présentera ses excuses. Plus vite il le sera absous, bien sûr. Si un jour il l'est, voilà. Plus il laisse passer
peut-être
le temps.
Pas, mais en tout cas, oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi.
Mais moi, je pense qu'il devrait le faire vite, pour le moins, parce que
pour
c'est
le
obligé.
Foot, pour le
c'est,
foot,
c'est un mec, oui, mais c'est un mec sérieux quand même.
Mais oui, c'est
Longoria,
très
il est pas stupide, donc non. Il va devoir présenter ses excuses sur les mots, surtout de la corruption. Là, il peut pas.
Le terme est impensable et inentendable.
Merci Laurent d'avoir composé le 32-16, d'avoir été avec nous ce matin. Évidemment, tout au long de la journée, l'affaire Pablo Longoria autour de ces mots, hein, la corruption pour lui après ce match face à la JOCR. Évidemment, on en reparle sur RMC. Merci beaucoup les GG, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. Merci d'avoir été avec nous. Bravo pour cette émission. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve le week-end prochain, samedi, à partir de 9h. Pour les grandes gueules
et
du sport.
Et on se retrouve à 15h cet après-midi et à 16h pour le coup d'envoi d'Italie.
Bien sûr, avec on toute la bande en direct d'Europe.
De raclée.
Allez, tout de suite, les paris RMC avec toute la Dream Team, la 23e journée de Ligue 1, mais également Italie-France en rugby. À tout de suite.